quand en crypto, tu te retrouves du jour au lendemain avec 100 000, 500 000, 1 million sur ton compte, et c'est arrivé, il y a plein d'histoires comme ça de success story, mais toi, tu as toujours le mindset du gars le mois précédent qui était smicard et qui n'avait pas une thune sur son compte. Et au final, est-ce que tu es devenu millionnaire parce que tu as 1 million sur ton compte? Ben non, en fait, tu n'as pas le mindset d'un millionnaire. Un millionnaire, tu lui enlèves tout, il va refaire son million parce qu'il a un mental. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de biais psychologiques, parce que c'est vrai que c'est un podcast sur lequel du coup on aborde différents sujets. On a beaucoup parlé de finances dernièrement, on a beaucoup parlé aussi d'entrepreneuriat, d'immobilier, et on a abordé, bon, on a saupoudré chaque épisode un peu de psychologie, mais là on avait envie de prendre un peu plus le temps de parler donc de psychologie et notamment d'introduire une notion qu'on appelle les biais. Donc on va les définir, on va en nommer quelques-uns, il faut savoir qu'il y en a énormément, donc on ne pourra pas faire une liste exhaustive aujourd'hui, mais on peut tout du moins essayer de parler des plus importants, on va dire, et de ceux qui nous ont impactés des fois à titre personnel. Donc voilà, c'est un peu l'objectif du jour. Pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, eh bien, je vous laisse d'ores et déjà mettre un petit like sous l'épisode et vous abonner aussi si vous voulez ne manquer aucun épisode de tout ce qui s'en vient. Et on a plein de surprises pour vous, plein de choses qui se préparent là sur le podcast. Comment ça va les gars?
Super.
Ça va bien et toi?
Ça va très bien. Donc vous êtes chaud pour parler des biais?
Ouais.
Yes.
Allez, et ben c'est parti. Donc peut-être Christian, tu pourrais te définir pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme-là. C'est quoi exactement un biais cognitif et pourquoi c'est important de les connaître?
Bien sûr. Bah, moi, ce que j'aime bien donner en fait comme analogie, c'est d'imaginer finalement qu'on porte des lunettes qui sont teintées de couleur. Disons que ces lunettes, elles sont par exemple teintées de rose. Et du coup, en les portant, notre perception du monde va être constamment influencée par cette teinte rose. Donc même si on sait rationnellement que tout n'est pas rose, notre perception en fait immédiate, elle va être colorée par ces verres, et du coup les biais cognitifs, ils fonctionnent un peu de la même façon. Ils sont comme des lunettes invisibles finalement, qui vient colorer notre perception et du coup notre jugement, et ce qui va nous amène à voir, à interpréter les situations, les gens, les informations d'une manière qui n'est pas exactement la réalité. Et donc du coup c'est hyper important. Je dirais, c'est de la connaissance de soi, hein, mais c'est ne plus être dans un mode automatique et avoir cette capacité de conscience de soi, de prendre du recul et de s'auto-observer, en fait, pour justement éviter de tomber dans des choix qui seraient trop émotionnels, remettre peut-être plus de rationnel, laisser passer le temps. On va voir après, quand on en a conscience, le fait d'en parler déjà, on va pouvoir s'auto-percevoir et se prendre la main dans le sac quand on est en train de le faire. Et donc du coup de s'auto-analyser d'une certaine façon et de se dire est-ce que je ne suis pas en train justement de rentrer dans un biais, puisqu'on est tous sujets à ces biais, hein, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs je tiens tout de suite à préciser une chose, c'est que ça va faire justement l'occasion de parler du biais de Kruger. C'est que du coup quand on ne connaît pas très bien... t'en avais parlé, François, dans un autre épisode.
Ouais, fait.
Quand on ne connaît pas très bien un sujet, on a tendance à être encore plus,
virulent.
Affirmatif. Affirmatif, comme s'il n'y avait pas de nuance, etc. Parce que manquant de connaissances, on ne va peut-être pas avoir justement cette capacité à nuancer nos propos. Donc on n'est pas non plus des psychologues c'est pas notre expertise, mais on s'est intéressé sur le sujet forcément parce que ça fait partie aussi, on vous l'a dit hein, depuis le début, connaître toute la partie technique des investissements, etc. Même d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, enfin dans plein de choses, il y a aussi une grosse part de psychologie qui intervient, et donc être au fait de ces choses-là va être extrêmement pertinent pour pouvoir justement arriver à nos objectifs en fait. Donc voilà, on va y aller avec des pincettes, et puis faites le temps aussi de faire vos propres recherches, pas à l'abri de dire des bêtises.
Non, très bon rappel Christian, et c'est vrai ce que tu dis, en tout cas au niveau investissement, moi je l'ai vraiment vécu, on a beau avoir toute la connaissance technique, ce n'est clairement pas suffisant. Donc la psychologie joue le rôle, à mon avis, le rôle clé hein, dans tout ça. Alors c'est vrai qu'on dit des fois que quand on a conscience du problème, c'est la première étape, parce qu'après ça, on peut justement, comme tu disais, s'auto-observer, mettre en place peut-être des stratégies, des garde-fous qui nous évitent de succomber à nos biais. On est tous sensibles, je pense, à certains biais plus qu'à d'autres. Donc de mieux se connaître, c'est clairement une étape essentielle vers la réussite, qu'elle soit professionnelle ou même personnelle, tout du moins. Bah, Christian, tu nous as parlé là du biais de Kruger. Donc ça, c'était le premier biais finalement qu'on voulait aborder avec vous. François, veux-tu nous parler du deuxième biais?
Moi, le biais dont je voulais parler, c'est le biais perma-boule, perma-bère, baissier-haussier. Et ça, j'ai été pas mal victime de celui-ci. Moi, j'étais plutôt perma-bère. Et ça peut être très délicat, surtout sur un marché qui est parabolique, comme sur les cryptos. Donc, c'est un biais sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et encore une fois, vous ne pouvez pas totalement enlever votre biais. Hein. Il est là, il sera toujours là. La lunette, elle est là. Mais par contre, vous pouvez être plus réfléchi dans vos décisions. Et c'est ça qui va être important. C'est de vous... Au moment où vous allez prendre une décision, potentiellement, vous allez avoir une petite alerte qui va arriver. Et donc voilà, moi, ça fait longtemps que je travaille avec ce biais baissier, qui en fait, à chaque fois que le marché prend 5, 10, 15, 20%, à l'époque, c'était plutôt sur le marché traditionnel que je travaillais, et ben, j'avais tendance à vouloir shorter le marché. J'ai dit, mais non, c'est pas possible qu'il aille chercher des ATH. Et en fait, c'est là où même il y a d'autres biais qui vont rentrer en jeu, on parlera peut-être après, je pense au biais de confirmation, où on va essayer de chercher toutes les confirmations sur le marché pour valider notre position. Dire, bah oui, c'est normal en fait qu'il va baisser parce que le PIB actuel, bah, il est en baisse. Là, on va rentrer bientôt dans une récession, etc., etc. Et souvent, on peut se faire clairement avoir dans ce jeu-là parce que en fait, on essaye a posteriori de donner raison à ce biais baissier. Et aussi en fonction, parce qu'il y en a aussi qui sont perma-boules. Et c'est super difficile parce qu'en fait, tous les biais s'entrechevauchent et on peut avoir du coup un biais de confirmation qui va se rajouter à son biais baissier, qui va se rajouter à un biais de rétrospection, etc. etc.
On le voit beaucoup en ce moment parce que notamment là sur le départ du bull run, on a encore des gens, je sais, qui attendaient une autre retrace. Alors peut-être qu'elle va arriver. Mais quoi qu'il en soit, même si on ne prend pas position dans ce débat, on réalise qu'il y a des personnes qui étaient plutôt baissiers, qui avaient un biais baissier donc. Et le fait que le marché soit parti très vite, bah, dès que tu as une journée rouge, tu vois, donc ceux qui ont un biais baissier, ils vont dire « Ah, tu vois, c'est la retrace que j'attendais. » Et du coup, ils ne vont même pas rentrer. Ils vont attendre parce qu'ils veulent ne pas avoir attendu pour rien. Donc, ils s'attendent à une baisse beaucoup plus importante, par exemple. Et ceux qui sont sur un biais haussier, à l'inverse, bah, ils disent bah, « C'est parfait, il y a des rabais, il faut en profiter, buy the dip. » Et on achète à tout prix toutes les bougies rouges parce que nous, de toute façon, on a un biais aussi. Donc l'un comme l'autre, on voit qu'ils sont effectivement influencés par leur psychologie. Et du coup, on n'est pas... Moi, je pense beaucoup à Mark Douglas qui a écrit un très, très bon livre que je recommande tout le temps. On fera peut-être d'ailleurs on avait fait un épisode là-dessus ou pas?
Pas sur Mark Douglas.
Non, on l'a pas fait. Hein, sur Trading the Zone, on voulait faire, c'est ça, ouais. On voulait le faire. Donc l'idée, c'est qu'un trader qui est dans la zone ou un investisseur qui est dans la zone, il est dans une espèce de neutralité, on va dire, émotionnelle, où quand il regarde les informations, il les regarde pour ce qu'elles sont. Et notamment, quand on regarde le prix, vraiment, c'est de partir du principe que toute l'information est là et de ne pas poser nécessairement un biais et de voir, parce que le marché, il nous dit si on est plutôt en hausse ou plutôt en baisse. Et en ce moment, si on regarde le marché, alors peut-être que c'est mon biais aussi qui parle, mais je pense qu'on est dans un marché qui a montré qu'il voulait aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc, quelqu'un qui attend absolument les retraces, c'est quelqu'un qui a peut-être un biais baissier.
Typiquement, moi, je vois par exemple un tweet où la personne, elle faisait part de son positionnement sur Bitcoin, où là, il est à 37 000 dollars à peu près au moment où on parle, et qu'en fait, il attendait un retracement genre sur les 10-12 000, il n'est pas rentré et il se pose la question, est-ce que je rentre maintenant ? Et c'est là où vous voyez qu'il y a une répercussion, c'est qu'en plus, du coup, et je ne sais plus quel biais d'après on voulait parler, mais là, on voit bien que typiquement, on va pouvoir prendre des décisions irrationnelles par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on risque de prendre des décisions du type « je rentre à 37 000 » parce qu'on a raté le train. Donc là, on est dans le FOMO. Et on va potentiellement, en fait, créer un peu comme une aversion à la perte. On en parlera juste après. Parce que du coup, c'est comme si on avait perdu d'une certaine manière. On a perdu un gain potentiel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est même pas une vraie perte. C'est même pas une vraie perte qu'on a perdue, c'est la perte potentielle que si le truc a été bien rentré à 15 000, si j'étais bien rentré à 15 000, j'aurais dû techniquement faire tout ça. Sauf que t'es jamais rentré, t'as jamais fait ça. Et ça, c'est super délicat parce qu'encore une fois, un autre biais appelle un autre biais qui appelle un autre biais.
C'est ça, on passe de l'un à l'autre rapidement en fait. Ouais. Intéressant. Mais on voulait après aborder le biais de rétrospection. Christian, je ne sais pas si tu veux nous en parler plus.
Oui, bah, ça, je pense que ça va parler à tout le monde. Hein. De toute façon, on est à chaque fois tous sujets. Mais c'est vrai que des fois, on se retrouve plus dans certains. Le biais de rétrospection, c'est vraiment quand... C'est faire la distinction entre quelque chose que si je vous le demande, vous n'êtes pas forcément en mesure de me le dire. En revanche, si je vous le dis et que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, vous allez potentiellement dire « bah oui, mais ça, je le savais en fait ». Mais si je vous aviez posé la question juste avant, bah, vous n'auriez peut-être pas eu l'information. Et ça, on va le retrouver des fois à plusieurs reprises, des personnes qui ont vraiment une... Ils avaient une forte intuition, on va dire, mais ils n'avaient pas la certitude exacte. Et quand ça se produit, bah oui, mais de toute façon, c'était sûr, je le savais. Et là, c'est la différence entre... une forte intuition ou des, on va dire, des points convergents qui m'indiquent une direction. Mais après, de là à dire que c'était ça qui allait se produire et que c'était forcément la destinée, enfin voilà, on ne peut pas savoir. Et surtout dans le marché de la finance, on l'a vu, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Donc, de là à dire, non, mais de toute façon, parce qu'on le voit hein, dans le marché, des fois, moi, à un moment donné, quand on était à la fin du bull run, il y en a qui disaient, ouais, ça va repartir, d'autres qui disaient, mais non, c'est mort. Et puis chacun, en fait, disait ce qu'il avait envie de dire, mais personne n'était vraiment sûr de rien du tout. Et c'est quand il y avait les choses voilà, qui sont arrivées que là, ils ont commencé à dire « Non, mais de toute façon, je l'ai toujours dit depuis le début. » Et si on reprend les anciennes vidéos, peut-être qu'il y avait du doute quand même. Donc, c'est de se méfier par rapport à ça, quand on le sait, de pouvoir se regarder avec du recul et rester humble finalement parce que des fois, on ne sait pas en fait. Il faut accepter le fait de ne pas savoir.
Et je donne un exemple simple. Là, si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vient de dire et que pour vous, c'est évident, bah c'est que techniquement, vous êtes potentiellement dans le biais de rétrospection. Et puis, ça vous l'a peut-être fait de manière plus terre à terre avec, je sais pas, quelqu'un qui vous pose la question quelle est la capitale de l'Australie. Puis là, vous savez pas. Mais pourtant, si je vous dis la capitale de l'Australie, c'est Canberra, vous allez dire mais ouais, je le savais, on m'avait dit, c'est pas Sydney, tout ça, c'est Canberra. Ça, c'est le biais de rétrospection.
Nice. Bien illustré. Bien illustré, François. Il y a la notion de coût irrécupérable. Je ne sais pas si, Christian, tu peux nous parler plus précisément de ce que ça veut dire.
Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Coût irrécupérable, c'est cette idée... En fait, à chaque fois, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine dans les biais. C'est tout ce qui se passe au niveau neurologique, au niveau émotionnel. Et puis, du coup, qui va peut-être venir entraver le côté rationnel. Et je dirais qu'il y a aussi cette notion de temps. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Et quand les choses commencent à se mélanger, c'est là où on n'est plus finalement dans l'instant présent à pouvoir prendre une décision avec les faits. Et typiquement, le coût irrécupérable, c'est quand on a une attache par rapport à un coût qui s'est produit dans le passé. Et je sais que c'est très difficile, et moi je sais que j'ai été sujet à ça, de faire, en fait, de trancher, être capable de vraiment se dire, bah, ça c'est fait en fait. Ne lâcher l'historique, même si ça nous compose d'une certaine façon, ça nous a construit, ça nous a permis de devenir l'homme, la femme qu'on est aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que d'une certaine façon, si on voit les coûts irrécupérables comme finalement un investissement en soi, et que du coup on n'a jamais vraiment perdu parce qu'en fait tout est équilibre et il y a autant de pertes que de gains, tout dépend comment on regarde les choses, finalement on lâche cette perte, mais en fait finalement on l'a récupéré d'une certaine façon et elle va nous permettre de peut-être reprendre d'autres décisions. Or, si on est attaché et qu'on ne veut pas lâcher le passé, et ben à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que c'est notre passé qui va nous influencer, un peu comme si c'était, si je parle de moi par exemple, un ancien Christian qui a pris une décision à un moment donné. Moi, dans, par exemple, l'orientation professionnelle, j'aimais bien donner l'exemple d'une personne qui a pris des longues études, admettons, dans la médecine ou dans le droit, etc. Donc là, typiquement, elle a pris une décision à un moment donné. Puis peut-être que sur le chemin, bah, elle s'est rendue compte que ce n'était pas la décision qui va vraiment l'épanouir, qui va lui permettre d'être heureux, etc. Mais peut-être que du coup, alors il y a d'autres biais qui vont se mélanger à ça, mais il va y avoir potentiellement ce côté de se dire « Mais ouais, j'ai investi tout ce temps, toute cette énergie, et si j'arrête, si je coupe, si je change de voie professionnelle, si je lâche mes pertes dans l'investissement cryptographique, etc., eh bien, c'est comme si j'avais perdu ça. Or, en fait, c'est réussir à se dire, mais non, ça, c'est le passé, et maintenant, c'est un peu faire table rase et se dire vers où je m'oriente et qui est juste aujourd'hui par rapport au Christian d'aujourd'hui et pas du Christian d'hier. Parce que sinon, c'est le Christian d'hier qui va continuer à prendre les décisions pour le Christian d'aujourd'hui et le Christian de demain. Et là, du coup, on inverse les choses, c'est le passé qui oriente l'avenir, en fait. Et oui, il peut l'inspirer, parce que je pense qu'il n'y a rien à acheter du passé, il y a tout à y comprendre et y intégrer, des belles leçons à en tirer. Et là, du coup, c'est vraiment, je me sers du passé comme une source d'inspiration et de croissance. Mais vous voyez, il n'y a plus ce lien toxique ou ce lien qui vient nous influencer dans nos choix, qui pourrait ne plus finalement être pertinent, parce qu'au final, si aujourd'hui, tu n'es plus épanoui dans les études que tu as entrepris, c'est quoi la logique, en fait, de vouloir à tout prix continuer, en fait, si ça ne va pas permettre de récupérer, en fait, ces années?
Ouais, moi, ce que je donne comme exemple, souvent, c'est t'as acheté une place de cinéma et tu te sens vraiment pas bien, tu vois, genre t'es malade, tu vas te forcer à aller voir le cinéma et à gerber dans la salle de cinéma et passer un mauvais moment à regarder ton film.
C'est très parlant. Ouais.
T'as payé ta place, tu l'as perdu, c'est pas grave. Que tu l'aies vu ou que tu le vois pas,
le coût a été dépensé, le coût a été payé.
Et en fait, c'est là où beaucoup de gens se font avoir, c'est que, et c'est normal, hein, le biais est fait pour ça, c'est qu'ils pensent qu'on peut récupérer cet argent. Non. Et c'est pour ça qu'en investissement, c'est encore plus dur. C'est que comme la perte ne se fait que quand on a vraiment vendu, eh ben on a tendance à encore plus être victime de ce biais. Et du coup, à se dire, mais je vais pouvoir me récupérer, je vais pouvoir regagner l'argent que j'ai perdu. Et c'est là, encore une fois, où d'autres biais vont arriver et on va commencer à faire une accumulation, aversion aux pertes, etc., qui vont se rajouter. Donc, super, super important, parce que vous voyez, là, par exemple, avec Christian, on en a parlé hier, on reparlait de son bag de crypto. On était en train de faire un petit échange pour voir comment il se débrouillait sur son bag.
Oui, on en a parlé dans l'épisode dernier, en plus. Donc, de comment c'était positionné par rapport au bullrun.
Ouais, totalement.
Et justement, je pensais à ça. J'avais envie de vous challenger là-dessus. Quand Christian disait qu'il souhaitait garder ses bagues, vas-y, je te laisse continuer, mais j'imagine que c'est là que t'allais.
Et bah, c'est exactement là où j'allais. En gros, on en parlait avec Christian parce que il savait pas trop ce qu'il faisait. Il y a des tokens dans son portefeuille où il avait mis pas mal d'argent. Il avait fait des moves d'aversion aux pertes qui étaient un peu décision irrationnelle par rapport à ce qui était censé être fait durant le bull market, parce que voilà, il a peut-être eu un peu d'argent du bull qui est tombé de manière subite, et il a vu cet argent pas comme de l'argent réel, donc il a pris des risques inconsidérés par rapport à ça. Et puis maintenant, les tokens ont descendu de 90-95%, et la question, c'est qu'est-ce que je fais de mon bag? Est-ce que je le vends? Est-ce que je le vends pas? Et tout ça. Et bah ça, typiquement, c'est le coût irrécupérable. C'est de se dire, normalement, en investissement, jamais je prends des décisions par rapport à ce que j'ai pris comme décision passée dans mes investissements. Je suis obligé de repartir à froid de là maintenant. Mon bag, j'ai 200 balles sur tel token. Qu'est-ce que je fais avec ces 200 balles? Est-ce que je continue à l'investir sur ce token-là? Ou est-ce que je vais sur un autre token qui, pour moi, a plus de performance potentielle sur les 3 prochains mois, enfin après il faut une notion de temps, 3 prochains mois, 3 prochaines années, etc. Parce qu'après il y a la vision du temps qui est quand même important, parce que peut-être que le projet sur lequel vous êtes, il est intéressant, mais peut-être que vous, dans votre tête, si vous avez une horizon de temps d'un an, bah c'est pas la même chose que si vous avez un horizon de temps de 10 ans. Peut-être que votre projet est très intéressant sur 10 ans, mais peut-être pas sur un an.
Oui, ça peut être, toi t'avais ton bac de Chili's, je pense que ça veut dire... La réponse peut être quand même je garde mon bag, mais c'est de prendre la décision dans une neutralité émotionnelle où on ne se dit pas « Ah oui, mais il y a un coût ici, j'ai perdu cet argent, si je vends, bah clairement… » En fait, la perte, elle est faite. D'une façon ou d'une autre, si tu avais 1000, tu es à 100 aujourd'hui, tes 900, ils sont partis. Donc si tu es 100, tu décides de les sortir de ce projet parce que tu penses qu'il est sur une narrative moins intéressante, par exemple… pour le bullrun, et tu dis, je pense que l'IA, par exemple, c'est le plus prometteur, je le change de projet. Ça peut avoir du sens, en fait, tu vois. Et puis peut-être que ton projet, il était très bien, il a baissé comme tous les autres, tu penses qu'il a quand même quelque chose à jouer. À ce moment-là, tu décides de rester investi dessus. Moi, le truc que je me dis, je vais rester dans mon exemple, imaginons que j'avais mis 1000$ sur une crypto, et aujourd'hui, je me retrouve à 100$. Moi, le petit hack mental que j'utilise, parce que c'est vraiment un biais là, qui m'a beaucoup, beaucoup impacté à titre personnel, c'est de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, si je n'étais pas investi sur ce projet et que j'avais 100 balles dans les mains, est-ce que je les remettrais sur ce projet-là? Et la différence entre je les remettrais versus est-ce que je les laisse, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ton cerveau, il n'entend pas la question de la même façon. Et moi, c'est vrai que j'ai été beaucoup victime de ce biais-là, même à titre professionnel. Tu vois, t'en parlais, Christian, j'avais pas fait le lien, mais quand moi, j'avais étudié pour devenir ingénieur, le moment où j'ai voulu passer photographe, ça a été, c'était difficile mentalement de me convaincre parce que je me disais, j'ai quand même un bac plus 5, j'ai quand même mis beaucoup d'efforts là-dessus, beaucoup d'énergie, etc. Et j'imagine même quelqu'un... moi, j'ai fait mes études en alternance, donc j'ai été payé pour les faire. Mais il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent pour aller dans une école. C'est d'autant plus, j'imagine, difficile pour eux de changer d'avis ou quoi que ce soit. Donc, ouais, super intéressant ce biais-là. Donc, le coût irrécupérable, donc d'être bien vigilant par rapport à ça.
Je te valide, Julien, vraiment sur ce coup-là. C'est une très bonne idée. En fait, ce que tu fais, c'est, je pense, un truc que tu peux faire dans pas mal de biais. Et que j'avais beaucoup aimé, et je redonne à César ce qui est à César, c'était Fabien Olicard qui en avait parlé, et je trouvais ça super pertinent. L'idée, est, quand tu as un biais, c'est souvent de te positionner comme une personne à côté, qui n'est pas toi, qui prendrait potentiellement une décision sur les faits et non pas sur l'émotion. Vraiment réussir à décorréler en fait l'émotion dans la décision en disant bah, « je suis complètement quelqu'un d'autre, je suis un peu l'avocat du diable et je vais essayer d'aller même à l'inverse finalement de ce que je pense pour éviter ces types de biais de confirmation, de biais irrécupérables. Ça peut vraiment aider à sortir de ce biais-là.
Super, ben je suis content qu'on puisse apporter aussi des éléments de solution. C'est vrai que de nommer les biais, c'est la première chose comme on disait. Mais voilà, il y a des petits tricks mentaux que vous pouvez mettre en place pour vous aider. Et d'ailleurs, ça nous envoie à la prochain biais qu'on voulait aborder sur l'épisode, c'était l'aversion aux pertes. C'est vrai que moi, je peux vous en parler parce que j'ai été victime de ce biais-là lors du dernier bull run. Donc effectivement, pour ceux qui connaissent l'histoire, j'avais gagné quand même pas mal d'argent sur le bull run, le dernier. Et ensuite, le marché s'est retourné. Et en fait, j'ai pas su changer ma mentalité. J'ai pas su voir les éléments qui étaient devant moi. Et aujourd'hui, tu vois, bon, ça fait maintenant quoi, 2 ans. C'était le fin du bull run, c'était 2021. On est en 2023, fin 2023. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois les graphiques. Toute l'information était là. Clairement, c'était évident qu'on avait une perte de momentum. C'était évident qu'on était en train de marquer. Voilà, biais de rétrospection. Voilà, exactement. Je fais le lien. Mais c'était évident, donc, de voir qu'on avait des plus hauts de plus en plus bas et qu'on était en train de rentrer dans une tendance baissière, du moins sur du court moyen terme. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas su prendre mes pertes. C'est-à-dire que pour moi, la notion, finalement, tant que je restais dans le marché, donc si bon, je peux donner les chiffres, je ne m'en cache pas. J'étais à 200 000 dollars américains. Quand je suis redescendu à 100 000, déjà, il y a eu un premier choc en fait, émotionnel qui a eu lieu. Et le passage justement à 100 000, ça avait été un moment important pour moi. C'est la première fois que je voyais autant de chiffres sur mon compte. Donc, j'étais passé à 6 chiffres. Quand je suis retourné à 100 000, en fait, ça aurait été un bon moment pour sortir en me disant « Ok, c'était un palier qui était important pour moi ». Tu vois, quasiment comme un graphique, les zones de support et de résistance, j'aurais dû dire « Ok, le 100 000, c'est un support pour moi. Je dois rebondir sur ce support-là. Je dois sortir pour préserver ce niveau-là. » Mais je n'ai pas su le faire parce que dans ma tête, j'étais rendu à 200 000. La perte, en fait, comment dire, la perte faisait plus mal.
Elle t'impacte plus que le gain que tu avais fait. Et donc, du coup, tu veux trop faire.
Au lieu de me dire,
tu veux trop faire, tu veux prendre des décisions qui sont incompréhensibles.
Exactement. Au lieu de me dire, ok, je suis parti à 10 000, aujourd'hui je suis à 100 000, c'est extraordinaire. Ben, je me suis dit non, j'étais à 200 000 et je suis descendu à 100 000. Donc cette notion de perte de 100 000, finalement j'étais rendu à un point d'équilibre où d'un côté j'avais gagné 100 000 et de l'autre j'avais perdu 100 000. Tu vois, c'est parfait, les mathématiques sont incroyables. Et à ce moment-là, j'ai mis plus d'importance sur la perte des 100 000 que sur le gain des 100 000. Et donc j'ai décidé de continuer à trader et en plus avec un très mauvais mindset. Donc là, j'ai commencé à faire des choses qu'il faut absolument pas faire. J'ai utilisé l'effet de levier, etc., etc. Je vous renvoie à l'épisode
qui est le biais de la version aux pertes, hein, dans le sens où on va prendre irrationnellement des décisions qui n'ont rien à voir. Et moi, je l'ai vécu aussi quand j'ai démarré ma pseudo-carrière de trader.
Ah bah ouais, quand on dit prendre sa perte.
Où je voulais pas prendre ma perte. Et moi, j'étais le gars à déplacer mon stop à chaque fois. Alors toi, Julien, tu sais que tu l'as jamais été. Toi, c'était différent. Peut-être que tu as fait plutôt de l'overtrading. Voilà, toi, tu... Non. Ah, d'accord, tu tradais sans stop.
Non. Ah, en crypto, je trade sans stop.
Oui, mais en crypto,
oui, mais en même temps, on s'invente des histoires. Ouais, mais on s'invente des histoires,
on se dit
des trucs.
Non, parce que du coup, tu pars sur un risque qui est global, tu vois. Je veux dire, dans ton portefeuille, tu sais que
tu pars 100%
sur 100%
de perte,
de
ta ligne.
Tu restes 100% de ton truc. Donc, du coup, tu n'as juste pas d'effet de levier. Mais si tu mets un effet de levier et que tu traites sans stop, là, c'est voué à l'échec parce que tu ne pourras jamais réussir à faire les gains. Je sais pas, c'est mathématique, quoi. Hein. Si je risque 300%, 400% de mon capital, c'est pas jouable. Si
c'est
j'ai
par rapport à quoi
de 5,
toute façon.
De 10, de 15.
C'est ça.
Ça
on
ne
peut pas calculer le reward si le risque n'est pas déterminé, ça c'est sûr.
Exactement. Et moi, j'étais clairement là-dedans. Hein. Je déplaçais à chaque fois mon stop, voire pendant un moment, j'arrêtais de mettre des stops parce qu'après, je m'étais dit, biais de confirmation, c'est les marchés, les courtiers, ils connaissent nos positions et nos stops exactement où on les met. Du coup, ils vont venir me mécher, ils vont me toucher mon... et le marché m'en veut personnellement. Donc après, on commence à personnifier le marché, on commence à dire, bah ouais, non, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, hein. C'est toujours pareil, ça c'est aussi un biais. Hein. Quand je fais quelque chose de bien, c'est moi. Quand si je fais quelque chose de mal, c'est les autres. Donc ça, c'est clairement un biais super important, quoi. Et c'est normal que tu aies été victime de ce biais-là. Et tout le monde est victime de ça. Hein. C'est,
ah ouais,
c'est
je
normal.
Je pense que pour les traders et les investisseurs, là, c'est un classique.
Il y a avec l'effet de levier, et je me sens concerné aussi, mais voilà, c'est vraiment peut-être aussi ce biais d'impatience dont tu parlais, François.
Ah,
belle transition, Christian.
Tu m'en avais parlé après et je l'avais pas vu venir, ce truc, mais c'est qu'en fait, ça peut être utilisé de façon intelligente, l'effet de levier. Quand tu me disais que tu avais du capital sur d'autres trucs, etc., c'est plus. Mais nous, c'était. Moi, je le sais, ou en tout cas, je parlais pour moi. Déjà, la crypto, il y avait déjà un investissement de gagner vite. Et en même temps, ben, allez, on veut que ça aille encore plus vite, x2, x3, x4. Et donc ça, c'est, je pense, c'est, on veut aller comme le lièvre. Finalement, on se rend compte que des fois, ben, en prenant le chemin de la tortue, in fine, on arrive beaucoup plus facilement à la ligne d'arrivée parce qu'on n'accepte pas que ça prenne du temps. Et donc, du coup, on va prendre des raccourcis, sauf qu'il y a une différence entre faire de l'argent facile ou faire de l'argent rapide. Il n'y a pas de chemin, en fait. Et à un moment donné, si on prend un investissement qui est aussi rapide à la hausse, c'est qu'il peut être aussi rapide à la baisse. Et avec des effets de levier,
exactement.
On peut se faire liquider.
Et c'est génial ce que tu dis, mais c'est le biais d'impatience, c'est celui que j'ai compris qui est le plus difficile à manager, parce qu'en fait ce biais d'impatience va vous impacter tous vos autres biais. Et c'est vraiment pour moi, c'est le centre névralgique quand on parle d'investissement, c'est celui qui va vous déglinguer parce que vous n'êtes pas prêt, en fait. Et comme le marché et l'information actuelle est tellement circulante, c'est impossible, en fait. Vous pouvez avoir accès à tellement d'informations, à la minute, à la seconde, qu'en fait, vous êtes tellement... Vous avez juste à cliquer sur un bouton pour commencer à passer sur un graphique en une minute, et là, c'est fini. Et ça, c'est juste un putain de problème de biais d'impatience.
Et en plus, moi, je dis... Maintenant, ça, c'est une chose que j'ai compris. Parce que c'est vrai qu'on s'expose à la crypto parce que malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de prendre des raccourcis dans la vie, mais ça veut dire qu'il faut bien être conscient quand même qu'il y a une construction, à mon avis, du mental qui se fait. Et quelqu'un qui va investir, par exemple, sur les marchés où on parle d'une... Allez, on va prendre un chiffre, 10%, entre 5 et 10%, on va dire, par année d'intérêt, ben ton mental a le temps de s'habituer parce que c'est du long terme. Tu as le temps de voir ton capital grossir tranquillement et tu es prêt à changer en fait en tant qu'individu aussi. Tu as une mentalité qui est différente. Quand en crypto, tu te retrouves du jour au lendemain avec 100 000, 500 000, 1 million sur ton compte, et c'est arrivé, il y a plein d'histoires comme ça de success story, mais toi, tu as toujours le mindset du gars le mois précédent qui était smicard et qui n'avait pas une thune sur son compte. Et au final, est-ce que tu es devenu millionnaire parce que tu as 1 million sur ton compte? Ben non, en fait, tu n'as pas le mindset d'un millionnaire. Un millionnaire, tu lui enlèves tout, il va refaire son million parce qu'il a un mental. Et toi, en fait, en passant par le raccourci, si tu n'as pas eu le temps de te construire, tu n'as pas eu le temps de développer les skills nécessaires pour gérer cet argent-là, et c'est quelque chose qui est beaucoup arrivé aux gagnants du loto, par exemple, et c'est pour ça que souvent, il y a un accompagnement psychologique qui est fait, parce qu'il y en a qui vont des fois même se sentir pas légitime d'avoir gagné cet argent. Tu peux avoir plein d'autres biais qui rentrent et tu vas perdre cet argent, tu vois. T'as eu
ça ? Moi, je donne cet exemple parce que j'ai clairement eu ce biais-là.
T'as gagné au loto ? Tu me l'as pas dit ?
Non, quand j'ai touché les 200 000 avec les cryptos. kind of, hein. Le biais, ce biais d'être coupable de cet argent, de dire bah, j'ai pas fourni l'effort que techniquement je devrais faire pour pouvoir gagner 200 000 balles, parce que je sais d'où je viens, je sais ce que c'est que l'argent. Et bah, ça a été quand même un choc. Et au final, c'est ce qui m'a permis, et j'en suis très heureux, tant pas ce biais de culpabilité, mais plutôt le fait d'avoir compris que je pouvais travailler sur mon biais d'impatience grâce à ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma culpabilité, elle s'est transformée en mode, bah, il faut que je donne plus. Donc, je donnais plus là où je pouvais donner plus. Donc, j'ai donné corps et âme à mon travail. Et du coup, j'ai laissé complètement la crypto de côté. Je regardais les cours, je prenais mes gains, mais 90% de mon temps, j'étais pas sur les marchés. J'essayais de rattraper.
T'as voulu compenser.
J'ai voulu compenser. Ouais. Au niveau du travail, dire, bah voilà, ok, j'ai peut-être gagné 200 000 en crypto, mais il faut que je montre que je vaux ça. Donc, du coup, je vais donner ça à côté dans mon boulot et dans mon taf. Et donc, du coup, je passais 90% de mon temps dans le taf à finalement essayer de compenser ce que j'avais gagné dans la crypto. Ce qui m'a permis, du coup, d'éviter mon biais d'impatience.
J'espère qu'avec tous les exemples qu'on vous donne, vous réalisez bien à quel point la psychologie, elle est fondamentale dans la performance, parce que finalement, un extraterrestre qui regarderait la situation, bah, en François qui investit tant d'argent et qui se retrouve avec tant d'argent, concrètement, voilà, il y a eu une suite d'événements qui l'ont amené là. Mais tout ce qu'on explique, ton ressenti à toi, comment ça t'a influencé dans ta posture de ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle peut-être. Peut-être que tu étais généreux à l'excès en disant il faut que ça aille au suivant, etc. Mais tout ça, là, c'est tout est teinté finalement de notre background, de nos émotions, de notre psychologie. Et c'est super intéressant. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as mis en place des choses pour le prochain bull run si tu te retrouves avec, je ne sais pas, un demi-million, un million, soyons fous, rêvons un petit peu. Comment tu ferais pour ne pas être victime de ce même biais?
Alors, bah déjà, je pense que du coup, ça m'a permis de travailler sur mon biais d'impatience. Donc, je l'ai compris, que j'ai réussi à casser quelque chose par rapport à ça. Et donc, du coup, j'essaie de prendre ce recul de ne pas prendre des décisions rapidement, trop rapidement dans l'investissement, que moins tu prends de décisions, c'est aussi prendre une décision. Si je prends un exemple avec le poker, c'est des fois les meilleurs joueurs, si tu veux gagner, en fait, c'est pas forcément jouer à toutes les parties, c'est plutôt regarder comment les gens jouent et la plupart du temps te défausser de tes cartes et ne pas jouer le jeu. Bah pour moi, c'est exactement ça, c'est de dire bah non, je vais pas être sur toutes les games, je vais pas pouvoir tout faire, toutes les opportunités qui vont arriver, bah je pourrais pas être tout le temps dedans. Et c'est ok, je fais le deuil de ça. J'ai compris que c'est en étant le... J'ai compris en fait ce principe, et qu'on avait parlé quand on avait fait le résumé de la psychologie de l'argent, là, de Morgan Housel, que en fait, c'est l'investissement, c'est un jeu de longue traîne. Il va avoir très très peu de mouvements qui vont en fait faire la performance de mon capital. Et donc, comme j'ai pris conscience vraiment de ça, je prends conscience que j'ai pas forcément besoin de faire énormément pour pouvoir finalement gagner. Par contre, est-ce que je vais pas avoir ce biais quand même de culpabilité qui va revenir? Certainement. C'est là où j'essaie de travailler sur mon objectif. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je vais faire en fait finalement avec cet argent? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter autour de moi? Essayer de donner du sens à tout ça. Je pense que ça, c'est une vraie réflexion que je suis en train de mener depuis un an, là, puisque moi, j'ai arrêté de travailler depuis un an. Donc, j'essaie de créer ça de manière consciente, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter en plus à la société en termes de valeur. Donc ça, c'est un truc important. Et puis pareil, c'est essayer, comme je disais tout à l'heure, de confronter ces idées avec d'autres gens, donc s'entourer, se poser des questions, par exemple, entre nous, imaginer peut-être une personne lambda extérieure, l'imaginer, la personnifier et voir comment elle réagirait à ma place. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui permettent, je pense, de se limiter dans ces biais.
Alors, tu fais une très belle transition vers le biais de la preuve sociale qu'on souhaitait aborder également. Et c'est vrai que la preuve sociale, il y a quelque chose qui... Bon, en fait, on touche à plein de choses. On touche au FOMO. On touche peut-être à comment la réussite des autres peut nous influencer d'un côté positif comme négatif. Donc, moi, je sais par exemple que je suis très sensible quand j'ai des gens autour de moi qui font des moves complètement de dégène, qui rentrent sur des, sur des projets qui vont taper des 100x, tu vois, des trucs de malade mental. Et en fait, et moi qui étais là tranquille, je faisais mon petit bonhomme de chemin, je faisais mes petits investissements peinards et je faisais mes analyses. J'ai été très sensible en tout cas par le passé à ça. Et du coup, je me mettais à augmenter le curseur risque parce que j'avais l'impression de pas profiter de l'opportunité. Et je pense que la preuve sociale jouait sur moi parce que je me disais, je suis aussi, aussi bon que cette personne-là ou je suis aussi méritant que cette personne-là. J'en connais assez, tu vois, et tu t'inventes plein d'histoires. Et en fait, c'est que tu traduis finalement peut-être même ta valeur. Alors, je sais plus si je suis sur le même biais ou si ça touche encore un autre biais, mais ta valeur personnelle dans la performance que tu peux réaliser, alors que ça n'a absolument rien à voir, qui a une grande, grande part de chance. Et tu vois, aujourd'hui, là, je vois par exemple le Tao qui a complètement explosé. Je me rends compte que j'ai beaucoup évolué là-dessus parce qu'en regardant le Tao,
c'est cool.
Aujourd'hui, honnêtement, je regarde ça, je suis comme « Oh, nice !» J'ai pas du tout envie de rentrer maintenant. Donc, je suis tellement content de voir que j'ai évolué là-dessus. Mais je suis certain que si on était au dernier bull run, je serais rentré. Je serais rentré YOLO sur le Tao. J'aurais dit « Ok, let's go. Les objectifs sont encore loin et tout. » Et donc, voilà, c'est un projet qui a fait, pour citer aux gens, 400-500% en 3 semaines. 3 semaines, 4 semaines. Donc, c'est complètement délirant. La date, c'est le projet qui a le plus explosé.
Mais en fait, Christian aujourd'hui. Christian est dans le Tao.
Ah, bah bien, ouais.
Ouais, Christian est dans le Tao.
Et au final, tu te dis.
Grâce à François, j'ai pris mes gains aussi, tu vois.
Bravo.
J'étais là à le regarder et à me dire quand est-ce que je les prends, quoi. Et en même temps, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'une pièce, elle a fait pile 3 fois de suite qu'elle fera pile la prochaine fois. Et elle peut toujours avoir une chance sur deux de faire face. Donc, et ou pile. Et,
tes gains, comment tu t'es senti avec le prix qui continue de monter? Est-ce que tu t'es senti mal? Tu t'es senti en paix avec ça?
C'est toujours la même chose, c'est essayer de trouver un compromis avec soi et pas être dans tout ou rien, en fait. Et donc, finalement, j'ai pris une partie, j'en ai laissé courir une autre. Donc, ce qui fait que je sais que je ne suis pas sorti du projet, donc je continue à faire des gains. Pas autant que si j'avais tout laissé, certes, comme en fait, ce que j'ai retiré, je l'ai mis aussi sur d'autres projets qui, à mon sens, vont partir, qui ne sont pas encore partis. Donc ça, c'est aussi une aubaine que tous les projets ne partent pas d'un coup. Ça donne des opportunités de faire rouler ses gains. Et donc, du coup, je sais qu'à un moment donné, il va corriger. De toute façon, il ne peut pas monter comme ça à l'infini.
J'aime bien l'expression « un moonbag ». Donc, c'est garder une taille de position que tu dis « celui-là, c'est pour la lune ». Et donc, tu as gardé ton moonbag pour le Tao. Et c'est bien parce que ça fait que si tu sors à 100% du projet, tu peux avoir un peu ce côté-là, cette émotion qui va venir te travailler. Donc, ça peut être un moonbag de 5%, 10%. Tu vois, si tu as fait beaucoup de plus-value, de toute façon, on est idéalement même en dessous peut-être de ce que tu avais investi initialement. Comme ça, tu es sûr d'être en gain quoi qu'il arrive. Et ouais, et puis de, comme tu dis, de faire une rotation dans ton cash et cette plus-value de l'investir dans un projet qui n'est pas encore parti, tu vas pouvoir refaire une performance sur ce même capital-là. Donc, c'est super intéressant. C'est l'effet cumulé dans toute sa splendeur.
Moi, du coup, je peux te donner peut-être un peu l'idée que j'ai dit à Christian, donner le scénario. Moi, ce que je lui ai conseillé sur Tao, et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est plus un conseil si ça vous arrive quand vous avez des gains comme ça de quelque chose qui est monté to the moon et vous ne savez pas quoi faire et vous avez peur de faire une bêtise ou vous pensez rester dans cette position parce que vous ne savez pas quoi. Essayez, comme a dit Julien, de ne pas avoir blanc ou noir. Et même, j'adore l'idée du moonbag, mais je pense que vous avez le droit encore de même de croire au projet. C'est ce que j'ai dit à Christian, c'est pas interdit de croire encore au projet. Et moi, c'est une technique en tout cas que j'utilise, c'est je récupère des gains, ok, je les réinvestis et je fais de l'effet cumulé avec d'autres tokens, mais en plus, je peux rester encore avec d'autres parties de mon bag du projet à sortir petit à petit. Je ne suis pas obligé de tout sortir d'un coup, 95% et puis garder juste 5% pour mon bag, mais je peux sortir 50% du projet. Et puis, en fonction de la capitalisation, je vais prendre un scénario vraiment super optimiste où dans ce scénario, en fait, il va peut-être encore faire un x10. Mais sur ce scénario-là, en fait, je vais prendre mes gains petit à petit sur le chemin.
Et tu fais un DCA out, en fait.
DCA out, exactement. DCA out, merci Julien, c'est exactement ça. Où je vais dire, si du coup j'imagine un x10, ça veut dire qu'il va arriver, là si on prend le Tao à 3 000 $, et du coup ça veut dire quoi? Je vais peut-être sortir 5 à 10% de position tous les $100.
Ouais. Après, il y a la notion aussi de, moi j'aime bien, de trailing stop. Si on dit qu'on veut vraiment, et ça il faut bien le décider au début, parce qu'il ne faut pas changer de stratégie en cours de route, c'est ça le piège.
Totalement.
Mais si vous vous dites, OK, moi, je veux vraiment surfer la tendance, à ce moment-là, la notion de trailing stop, c'est de dire qu'on va remonter notre stop pour suivre la position. Alors, si on est dans l'analyse technique, on peut le faire graphiquement. On peut déterminer des niveaux. On peut programmer même un stop pour que ça se fasse automatiquement si jamais ça redescend dans la nuit. Et on va suivre ça. Si jamais vous n'êtes pas dans l'analyse technique et vous voulez quand même appliquer cet effet trailing stop, une façon, c'est de prendre des profits sur un pourcentage. Donc, si vous dites, par exemple, je prends 50% quand on arrive à tel niveau, et après, sur tel autre niveau, je vends 50% du 50% restant. Et de cette façon-là, vous pouvez toujours, par exemple, j'ai dit 50%, mais ça peut être n'importe quel chiffre, mais on peut toujours continuer comme ça, à l'infini quasiment, de prendre la moitié de ce qui reste. Et de cette façon-là, vous pouvez vraiment surfer, mais complètement jusqu'au bout, jusqu'au dernier truc.
Moi, c'est ce que je préfère.
Et ça, c'est super intéressant.
Moi, personnellement, dans ma psychologie, c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce que je sais que du coup, j'ai pris des gains, je me suis récompensé. Je peux faire de l'intérêt cumulé et aller sur d'autres projets. Et en même temps, je sais que j'ai encore un bag qui continue à grossir. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas jouer à me dire, allez, vas-y, je prends 95% et puis je me casse avec, et puis je garde juste un petit mot de bag. Je pourrais encore avoir des regrets. J'ai besoin quand même d'essayer d'établir des scénarios, même si au final, le scénario ne se passe pas et que bah, peut-être je vais avoir 50% de mon bag encore. Qui va peut-être redescendre, et bah c'est pas grave, au moins j'aurais pris 50% de gain. En fait, dans tous les cas, je suis content et je suis heureux d'avoir fait mes moves. C'est-à-dire que j'ai déjà récupéré des gains, donc je suis content. Si le truc, j'y crois, bah je vais le garder et ça sera un investissement du coup peu plus long terme. Parce que c'était le scénario de base, hein, on est bien d'accord, c'est pas je change mes scénarios, hein, c'était un scénario long terme, juste il a été au contraire plus rapide dans ses gains, donc je récupère des gains. C'est plutôt dans ce sens-là. Et ça, je trouve que ça marche en tout cas très très bien pour moi dans ma psychologie. Essayez-le pour vous, mais retenez ça, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est toujours une nuance de gris, et donc essayez de bouger le curseur en fonction de vous pour vous sentir bien. Et si je reviens sur ce qu'on disait, et je pense que c'est là où on voulait aller avec le biais de preuve sociale, c'était aussi un peu ce biais de tribalisme. Faut bien se rappeler que c'est pas parce que vous êtes dans un projet que vous y croyez dur comme fer que ce projet va réussir. Et je pense que ça, c'est vraiment important et on le voit bien, c'est la guerre des cryptos entre elles, alors que je trouve que c'est complètement incohérent et qu'on
est tous dans le même écosystème.
Tous s'aimer, ça devrait au contraire nous pousser à aller plus loin et à aller plus fort ensemble. Mais non, il y a la XRP Army, et puis il y a les Solana Boy, et puis il y a les Ape, et puis il y a etc., etc. Et vous pouvez, si vous voulez trader ce genre de narratif, vous avez le droit. Je sais que Julien, toi, au bout le dernier, tu l'avais fait avec le Loopring, et ça t'avait fait pas mal d'argent avec ça. Mais attention, parce que vous pouvez tomber aussi
dans le piège du tribalisme. Ouais.
Dans le piège du tribalisme. Et du coup, à vous commencer à dire « Non, mais en fait, ce projet, il est trop bien. Regardez la communauté qu'il y a derrière. » Et en fait, après, vous êtes plus rationnel, encore une fois, dans vos actions, et vous faites des moves qui sont incohérents.
Ouais. Non, ça, c'est super intéressant. Je suis content parce que là, on donne plein d'astuces aussi concrètes que vous allez pouvoir utiliser.
C'est moi ou cet épisode-là, c'est que des shorts, en fait.
Ouais, il n'y a que des shorts. Mais non, c'est vraiment cool parce qu'on donne plein d'astuces. Et tu vois, notamment, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'aime bien... c'est quasiment ma stratégie principale sur les cryptos. J'achète de l'émotion, tu vois. Je regarde... Après, ça peut se traduire graphiquement. Il y a des façons de l'analyser. C'est des choses qu'on peut apprendre, de comprendre les graphiques et de quelle émotion, en fait, les investisseurs, dans quelle émotion ils sont actuellement. Et c'est vrai que quand vous achetez une émotion, vous vous exposez vraiment à des plus-values qui peuvent être complètement hallucinantes, en fait. Comme ce qui se passe sur le Tao en ce moment, c'est pas raisonnable. Mais on n'est plus dans le domaine du raisonnable. On est dans le domaine de l'émotionnel. On a toute la tribu, justement, derrière les gens qui sont sur le Tao, qui ont fait, alors peut-être même biais de confirmation, je le savais, ça allait exploser. Donc en fait, tu as toute cette psychologie derrière qui vient backer ton mouvement. Et après, il y a le FOMO. Donc là, c'est les gens, on est dans le piège, justement, ok.
De rétrospection.
J'ai manqué ça.
Ah bah je le savais, ça allait partir.
Le biais haussier, le biais. Voilà, Tao, là, c'est tout. Il résume tous les biais. Et en fait, ça fait un cocktail explosif qui est autant sur le rocket qui s'envole, mais autant vous. Et là, c'est vraiment la mise en garde que je peux donner. c'est attention, si vous n'êtes pas monté dans ce train-là, il y a d'autres opportunités qui s'en viennent, restez concentré, restez à l'affût et essayez à la limite d'analyser ce qui est en train de se passer et d'en tirer peut-être des grandes règles et des leçons que vous allez pouvoir ensuite modéliser dans un système. Un système que vous pouvez trader qui est pour le coup objectif parce qu'on peut avoir un système très cartésien mais qui lui s'appuie sur des signaux émotionnels. Et ça, c'est intéressant.
Et on parle des cryptos, mais rappelons que ça se fait aussi dans le domaine de la finance traditionnelle. Le Loopring, typiquement, c'était après l'affaire GameStop.
Après GameStop,
et,
ouais.
Et c'était très ouais. corrélé à ça. Et vous voyez, GameStop, c'est une action et c'est exactement ce qu'on dit. Hein. C'est un biais de tribalisme clair et net. Quoi.
On va finir sur le biais du survivant, François. Je sais qu'on l'avait déjà abordé dans un épisode, mais je l'aime bien celui-là. Et, je ne sais pas si tu veux nous en parler.
Le biais du survivant, moi, je l'adore. C'est mon petit chouchou. Alors, c'est celui qui, en fait, passe un peu à la trappe. C'est celui où, en fait, on oublie de regarder au bon endroit. On oublie de regarder au bon endroit parce qu'on regarde souvent les personnes qui réussissent. Et est-ce que l'objectif est de regarder que les personnes qui réussissent ? Eh bien, pas forcément. Je vous rappelle, en fait, le biais du survivant, comment il avait été fait. C'était pendant la guerre. Il y avait donc des avions qui partaient à la guerre et on voulait faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes possible de ces avions. Et donc, du coup, on va regarder un peu les avions qui reviennent de la guerre et puis on va essayer de consolider ces avions pour avoir le moins de pertes possible.
En fonction des impacts de balles,
en fonction des impacts de balles, etc.
Sur le fuselage.
Et en fait, l'erreur classique et tout le monde a ce biais-là, c'est que quand on voit l'image de l'avion avec les impacts de balles, la première réflexion qui nous vient, c'est de blinder là où il y a eu les impacts de balles, en se disant ça va aider les avions à devenir plus solides, plus résistants, et donc du coup à
avoir. Parce que l'avion a été touché là, donc c'est concret. Il a été touché là, donc on renforce ces points faibles là.
Ces points faibles là. Sauf que c'est les avions qui sont rentrés. Et donc du coup, si vous réfléchissez deux secondes, si c'est ceux qui sont rentrés, c'est pas là où ça a été fatal pour l'avion. Donc techniquement, c'est que c'est tout là où il n'y a pas eu les impacts de balles sur les avions qui sont rentrés. Ou techniquement, en fait, ceux qui ne sont pas rentrés, ils se sont pris les balles à cet endroit-là. Et donc, du coup, il faut renforcer là où il n'y a pas eu les impacts de balles de ceux qui sont rentrés. Donc, c'est le biais de survivant. Ce que ça veut dire que c'est faut regarder ceux qui sont morts au combat pour comprendre pourquoi ils sont morts. Et donc, pourquoi les autres ont réussi aussi. Et vous voyez, des fois, c'est ça la difficulté, c'est de comprendre qu'une personne qui a réussi, elle ne sait pas pourquoi elle a réussi. Elle n'est pas consciente.
Ou elle pense savoir. Mais elle n'est pas complète.
Ou elle pense savoir, mais on n'en a aucune idée. Et ça, c'était un TED Talk que j'avais entendu parce qu'il y a eu une vague à un moment donné et c'est pas méchant parce qu'en vrai, je suis assez d'accord de tout ce côté, je crois que c'est Napoleon Hill avec son livre, où en fait, l'idée, il faut modéliser les personnes qui ont réussi pour pouvoir se créer un esprit qui va permettre d'aller dans le sens de ce qu'on veut obtenir comme résultat. C'est-à-dire, si je veux devenir millionnaire, agis comme un millionnaire. Ça, je le comprends et je le conçois. Mais potentiellement, si on fait que regarder les personnes qui ont réussi et que écouter leurs tips de comment ils ont réussi, en fait, on regarde que là où eux, ils ont eu des impacts de balles et on ne regarde pas, en fait, tous ceux qui ont essayé et qui ont échoué. Si vous regardez tous les youtubeurs qui ont réussi et que vous ne regardez pas tous les youtubeurs qui ont échoué, et potentiellement, vous verrez pas toutes les facettes de l'échec. Et donc, du coup, vous allez peut-être faire un truc qui, finalement, va vous tuer.
Après, c'est très parlant sur les avions, parce que là, c'est quelque chose qu'on peut voir ou ne pas voir. Après, dans la réalité, c'est plus subtil. Mais
c'est vrai que
sur la réussite, il peut y avoir une grande part à la réussite. Et il peut y avoir plein de facteurs. Et c'est peut-être pas qu'un, c'est peut-être un ensemble de facteurs. Et si on imagine que l'échec, ça a été peut-être un move, mais là aussi, c'est peut-être plein de choses qui ont été faites ou pas faites, justement. Parce que des fois, on a aussi tendance à regarder des preuves de quelque chose pour pouvoir démontrer cette preuve. Mais des fois, je sais que, comment il s'appelle, Sherlock Holmes, il avait cette capacité, justement, à regarder l'absence de preuves. C'est-à-dire que pour lui, une absence de preuves pouvait être une preuve. Typiquement, je sais pas moi, la personne elle rentre, elle a son parapluie, il est mouillé, y a une preuve qu'il y a de la pluie. Mais la personne elle rentre, elle a son parapluie et puis il n'y a pas d'eau, alors qu'il y a de la pluie dehors, le fait qu'il n'y ait pas d'eau sur le parapluie, c'est une information. Alors qu'il pleut dehors, normalement, il devrait être mouillé. Et donc, le fait, des fois, de ne pas avoir une information donne tout autant d'informations que quelque chose qu'on voit. Et c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis.
Oui, c'est très clair.
C'est juste drôle à dire, mais c'est clair.
Et donc, du coup, voilà, je pense qu'on a autant à gagner et à apprendre en regardant finalement nos échecs que nos réussites. Ça pourrait être un peu la
synthèse. Et voilà, exactement. C'est finalement plutôt ça que je dirais. Des fois, on a tendance à trop valoriser les success stories sans vraiment comprendre les échecs des gens et quelles sont vraiment les clés de l'échec de la personne. Pas juste qu'elle pense qui a fait qu'elle a échoué, mais vraiment... de manière factuelle, qu'est-ce qui aurait fait qu'elle a échoué. Enfin, c'est vraiment, je pense, qu'il faut tout poser sur la table et pas présupposer quelque chose. Parce que c'est là où on a tendance à avoir des biais qui arrivent et qui commencent à nous attaquer. C'est-à-dire que, typiquement, là, tout ce qu'on dit, bah, potentiellement, on n'a peut-être pas vécu encore un biais qu'on ne vous explique pas parce qu'on ne l'a pas vécu et qui pourrait peut-être nous faire faillir durant ce bull market. Et si vous nous écoutez... Eh ben, vous pourriez vous dire, ah bah c'est bon, j'ai le biais du survivant, j'ai les tous, je vais y arriver, et puis je vais faire comme eux, et potentiellement, allez, on va tout the million sur ce bull market, ce que je nous souhaite, mais potentiellement, bah, on a peut-être un biais encore qu'on n'a pas vu.
Donc ça nous ramène à l'humilité, en fait. Et aussi de faire attention quand on voit, parce qu'il y a beaucoup de gourous autoproclamés sur YouTube, et là-dessus, on veut, nous en tout cas, vous faire un petit appel à la prudence. Nous-mêmes, on ne se positionne pas du tout comme ça. À la limite, notre approche a toujours été, on apprend en fait, on est en train de faire plein d'erreurs. Je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai quand même perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que justement, j'aurais clairement pas parlé de ça si j'avais voulu me montrer comme un grand seigneur de la crypto qui réussit tous ses coups, mais parce que je pensais que cet échec-là était un bien plus grand maître finalement. Avec un enseignement beaucoup plus précieux que les bons coups que j'ai pu faire, et c'est pour ça que je voulais le partager avec la communauté pour que ça puisse vous servir, vous aider, et en tout cas, donc voilà, je pense que ça c'était bien de finir sur ce biais là pour voilà, un appel à la prudence, attention, et surtout en bull market.
Vous allez voir, vous allez avoir 10 fois plus de personnes dans le feed que vous suivez. Et l'algorithme, en fait, est fait en plus pour vous donner le biais de confirmation. Donc, vous donner à manger sur ce que vous croyez. Donc là, vous allez avoir énormément de personnes qui vont arriver comme ça pendant le bull que vous connaissez ni David ni d'Adam, qui vont se proclamer Dieu sur Terre de la crypto. Si vous prenez pas un peu de recul, ça va être compliqué.
Christian, je te laisse le mot de la fin aujourd'hui. Je ferai juste l'appel à l'action après, mais si tu veux conclure peut-être sur tous ces biais-là. Alors peut-être juste pour en résumer, on a parlé aujourd'hui du biais, on a défini ce qu'était un biais psychologique, on a parlé du biais de Diane Kruger, c'est l'actrice de
Dunning-Kruger.
Voilà. Lui, après il y avait biais haussier, biais baissier, biais de rétrospection, le coût irrécupérable, on a parlé de l'aversion aux pertes, le biais de preuve sociale, le biais du survivant entre autres et quelques autres qu'on a abordé également. Fait que Christian, je te laisse conclure là-dessus sur les biais et peut-être un conseil que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent pour ne pas tomber justement dans ce piège-là.
Ouais, j'ai eu le temps de réfléchir là pendant l'épisode, il y a plein d'idées qui me sont venues. Une autre façon peut-être de l'expliquer, c'est un peu finalement, ces biais cognitifs, ça pourrait se représenter par une sorte de courant un peu sous-marin. Vous savez, comme des fois dans un fleuve, il y a un courant qu'on voit bien, mais il y a d'autres courants sous-marins plus profonds qui pourraient finalement, si on nage en pensant aller tout droit, pourrait y avoir... ce courant invisible qui nous déplace subtilement dans une direction. Ce courant invisible, il va influencer nos préjugés, nos inclinations inconscientes. Et tout ça, ça pourrait nous guider dans nos pensées, dans nos décisions. Et finalement, ne pas vraiment être pleinement conscient. Hein. Je ne sais pas si je me fais clair avec cette métaphore, mais finalement, on voit, c'est pas si facile déjà, d'une part, de reconnaître ce courant sous-jacent, et de le corriger. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, ou en tout cas l'idée qui m'est venue, c'est la lecture d'un livre que je n'ai pas encore tout à fait terminé et qui m'a déclenché énormément de prise de conscience. Je vous le recommande, je ne peux que vous le recommander chaudement. C'est un livre de James Clear qui parle des habitudes justement. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec ça? Et lui, en fait, donc, il parle des habitudes, mais aussi de la puissance de mettre en place un système. Alors, il dit beaucoup de choses. Hein. Je ne vais pas parler de tout le livre là, maintenant, tout de suite. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a profondément marqué dans cette lecture, c'est qu'il y a assez rapidement, au début du livre, il dit qu'en gros, vos objectifs ne vous élèvent pas. Et ce n'est pas la puissance et la hauteur et la grandeur de vos objectifs qui vous élèvent. Finalement, c'est la défaillance de vos systèmes qui vous font chuter. Je trouve ça, mais d'une profondeur. C'est-à-dire que combien de fois, moi-même, j'ai voulu atteindre des objectifs, j'ai voulu avoir des objectifs grandioses, hein, et c'est bien d'en avoir, attention. Mais ce que je dis là, c'est que si derrière, en tout cas ce que James Clear et que j'ai expérimenté hein, dans plusieurs approches, typiquement, je prends la salle de sport, aujourd'hui, je sais que oui, j'ai des objectifs, mais j'ai surtout un système qui me back derrière et que j'ai toute une routine que j'ai mis en place qui fait que du coup, je sais ce que je vais faire à la salle, je sais que quels exercices, je mesure, je contrôle, etc., etc. Et c'est tous ces systèmes-là qui me permettent d'atteindre in fine mon résultat. Or, si je regarde, heureusement que la caméra ne montre pas tout parce que c'est un sacré chantier, eh ben,
on voit quand même un trampoline à ta gauche.
On voit un trampoline, mais bon, ça fait joli, mais imaginez une personne qui a une maison parfaite et puis une personne qui a une maison qui est complètement en désordre, il y a fort à parier que l'une a un système, c'est-à-dire que peut-être ben, quand il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, elle le range, ou alors à un moment donné, à un état critique, elle va faire des choses qui vont faire que ça va redevenir le statu quo, qui est une maison rangée, versus des personnes comme moi qui ne vont pas avoir forcément un système prédéfini et qui fait qu'à un moment donné, la normalité, c'est le bordel. Et donc, du coup, on va remettre des objectifs pour dire non, je vais ranger, mais ça va être avec de l'énergie, avec de l'effort. Et à un moment donné, comme il n'y a pas de système, ben, ça va faire des vagues, des hauts et des bas. Et donc, comme vous l'avez compris, on vous a partagé, nous, avec beaucoup d'humilité, nos idées, ce qu'on fait, nous, concrètement, nos tips, mais ça marche pour nous. Encore une fois, on est tous différents, donc essayez de trouver ce qui marche pour vous. Il n'y a pas une recette miracle, mais par contre, ce qu'on vous encourage, c'est de mettre en place un système dans vos stratégies d'investissement qui vont permettre de backer, parce que oui, dire je veux faire un objectif de tant de pourcentage d'augmentation, c'est bien, mais ce qui fera la différence, c'est pas votre objectif, c'est le système que vous aurez mis en place et qui va permettre de pas vous faire emporter justement par ce courant sous-marin et de vous permettre d'atteindre votre objectif, ou en tout cas d'être conscient s'il y a un courant sous-marin, pour que le système puisse rectifier un peu comme une sorte de GPS ou de, je sais pas comment on pourrait dire, de pas un pilotage automatique, mais justement, vous sortez du pilotage automatique et vous avez ce système qui vous ramène la tête froide, qui vous montre les chiffres, c'est du data, et ça vous permet après de prendre les bonnes décisions.
J'aime beaucoup Incroyable. Ce que tu nous partages, Christian, et je veux juste rajouter ce mot-là parce que ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire, et que c'est une théorie que j'essaye d'amener, enfin en tout cas que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager ici. C'est la théorie en fait de l'entropie qu'on parle en physique. L'entropie en fait c'est la mesure du désordre, et tu vois Julien, tout à l'heure tu me posais la question de qu'est-ce que tu as perçu durant le dernier boule qui te permet de changer ou d'adapter ça. Et ben en fait, c'est ça que j'ai perçu. J'ai perçu une notion d'entropie sur laquelle, en fait, on n'a pas forcément de prise. C'est que cette entropie, elle est très délicate, très difficile à gérer, et qu'il faut aussi la laisser faire court. C'est-à-dire que le désordre, en fait, il apporte de l'énergie extérieure au système. C'est une bonne chose. Ça va permettre, en fait, à votre système de générer quelque chose. Mais au bout d'un moment, en effet, trop d'entropie, trop de désordre, il va falloir, pour pouvoir finalement re-accumuler de l'énergie, recréer un système qui va permettre de dissiper finalement ce désordre, recréer de l'ordre dans le désordre, pour ensuite re-avoir du désordre. Et ça va être des vagues. Et ça, je suis clairement d'accord et je sens qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais ce que je veux ajouter en fait dans ta réflexion, c'est qu'il y a un côté où laisser aussi la prise au désordre. La prise au désordre, elle est importante. Parce que c'est là où l'énergie se dissipe, c'est là où il y a quelque chose qui se crée. Je ne suis pas sûr que la personne qui a tout le temps sa maison bien rangée crée quelque chose. Peut-être que son système lui permet de toujours avoir sa maison bien rangée, mais je pense que c'est important dans la notion de créativité, dans la notion de création de valeur, que parfois, en fait, on laisse place au désordre, on laisse place au chaos.
Eh ben, on va vous laisser sur cette réflexion et merci à tous les deux pour cette très très belle conclusion. Je pouvais pas espérer mieux. Donc c'est le moment où on vous remercie si vous êtes encore là et que vous nous avez écoutés. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, c'est très facile. Il suffit de mettre un petit like sous l'épisode. Donc là, ça fait déjà deux épisodes qu'on est en vidéo. Donc je vous laisse également vous abonner à la chaîne YouTube qu'on a créée pour l'occasion. Et puis, je vous rappelle également, on va mettre un lien en description, que vous pouvez programmer avec nous une séance de... Bah, une discussion, en fait, hein, tout simplement. Un espèce de coaching privé pendant lequel bah, on se tient disponible pour vous, pour vous entendre parler de votre projet. Donc, si ça semble être intéressant pour vous, eh bien, utilisez le lien. Donnez-nous votre contact pour qu'on puisse bah, échanger plus facilement et programmer du coup une petite séance de discussion avec nous. Voilà, merci encore Christian, François d'avoir été présent. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très vite pour un prochain épisode dans Balado 3.0.
Bonne semaine.